Le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, en Galice, en Espagne, au nord du Portugal, comporte des dizaines de chemins provenant de différents pays de l'Europe. Par exemple, le Portugal, l'Italie, la France, le Benelux, l'Allemagne et encore d'autres pays plus à l'est ont tracé des itinéraires pour permettre aux voyageurs d'aller se rendre en pèlerinage vers ce lieu dit Saint-Jacques de Compostelle. Les pèlerins catholiques parcourent à pied parfois des centaines de kilomètres, une marche qui est faite en plusieurs étapes et qui peut durer aussi plusieurs semaines. Chaque année, des milliers de personnes marchent ainsi avec dévotion pour enfin se recueillir sur le tombeau du fils de Zébédée, Jacques, le fils de Zébédée. Évidemment, c'est ce qui appartient davantage à la légende et à la tradition qu'à la réalité historique. Par contre, la parole de Dieu nous encourage, nous invite à une marche qui en vaut davantage la peine, à une marche bien supérieure et bien plus motivante que cette marche, ce pèlerinage et que quelque autre pèlerinage qui soit. C'est cette marche avec Dieu qui a caractérisé notamment, comme nous le savons, une grande partie de la vie d'Énoch. Énoch qui a vécu pendant, qui a marché pendant 300 ans avec Dieu. Et qui a caractérisé aussi la vie du prophète Ésaïe qui répond à cet appel de Dieu lors de sa vocation en Ésaïe chapitre 6. Donc, ceci. Ésaïe chapitre 6, au verset 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et Ésaïe de répondre, et qui marchera pour nous? Ésaïe de répondre, me voici, envoie-moi. Qui marchera pour nous? Ésaïe répond à cette question, à cette invitation de Dieu, me voici, envoie-moi. Donc, la marche avec Dieu, comme nous le savons, comporte plusieurs domaines, différents domaines. On se souvient d'ailleurs, peut-être, qu'il y a quelques mois, nous avions abordé différentes marches avec Dieu que nous trouvions dans l'Ancien Testament. Il y avait notamment la marche dans la communion, la marche par la foi, la marche dans l'humilité, la marche dans l'obéissance à sa loi, la marche dans la justice et la marche dans sa volonté ou selon sa volonté. Aujourd'hui, j'aimerais bien focaliser notre attention sur une marche que l'on trouve, entre autres, dans le Nouveau Testament, une marche parmi tant d'autres, mais on va s'arrêter, s'intéresser spécifiquement à une marche, celle qui nous invite à marcher par l'Esprit. Et Galates, au chapitre 6, verset 16, on peut prendre ce verset, nous dit ceci, Galates 6, verset 16, et c'est l'apôtre qui nous parle donc, qui dit, c'est pas 6, c'est Galates 5, verset 16, pardon, Galates chapitre 5, verset 16, je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, c'est le verset 16 qui nous intéresse particulièrement ce matin. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Peut-être qu'il est intéressant de rappeler ce que c'est la chair dans un premier temps. La chair, eh bien, est un des trois antagonistes pour le chrétien, du chrétien. C'est ce que nous révèle le Nouveau Testament avec le monde, Satan. La chair est aussi un des trois ennemis devant lequel le chrétien doit faire face, auquel le chrétien doit faire face. Alors, la chair est en résumé ce moi qui s'oppose à la sainteté de Dieu dans ma vie. Pour Paul, la chair ne désigne pas uniquement les péchés d'ordre sexuel. Souvent, on associe la notion de chair à ces péchés d'ordre sexuel, comme la débauche, comme l'impureté ou encore comme l'impudicité. L'apôtre Paul n'envisage pas uniquement ou exclusivement les péchés d'ordre sexuel en évoquant la chair, puisque dans ce passage, il énumère également une série d'autres travers de la chair, d'autres travers comme faisant partie aussi des œuvres de la chair. Et nous y trouvons là dans le passage de Galates chapitre 5, l'idolâtrie, tout ce qui se substitue finalement à Dieu dans nos vies, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les divisions, les sectes, l'ivrognerie, etc. Donc, pour Paul aussi, la chair ne se réduit pas uniquement ou exclusivement au corps physique. Paul ne réduit pas uniquement donc la chair au corps physique, puisqu'il fait référence dans ce même passage que nous avons lu à des œuvres de la chair qui proviennent des émotions, qui proviennent des sentiments, qui proviennent de nos pensées, comme, par exemple, la jalousie, la haine, l'envie ou encore les colères. Donc, par la chair, il nous faut donc considérer aussi bien le corps physique que notre entité spirituelle. Par la chair, il nous faut considérer donc l'être humain dans sa globalité, dans son entièreté, susceptible de produire des œuvres charnelles. Alors, pourquoi nous arrive-t-il, malgré tout, dans l'Église, entre nous, entre chrétiens, d'éprouver de l'amertume ou des sentiments de haine? Pourquoi nous arrive-t-il de faire preuve de médisance? Pourquoi nous arrive-t-il de manquer de self-control? Alors, malgré toute notre bonne volonté et malgré toutes nos bonnes dispositions, pourquoi nous est-il si difficile, finalement, de juguler les œuvres de la chair? Pourquoi nous est-il, voire même impossible, de renoncer aux œuvres de la chair et d'accomplir les vertus que Dieu attend de chacun d'entre nous et qui caractérisaient finalement la vie même de Jésus-Christ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? L'apôtre Paul lui-même, finalement, en Romains au chapitre 7, nous dit, et je vais paraphraser un petit peu ce qu'il exprime dans Romains 7, « Si je me repose, dit-il, si je me fie à mes propres forces, ma propre volonté, ma chair, je ne parviens pas à faire le bien que je voudrais faire, et je fais par contre le mal que je ne veux pas faire. » Je fais le mal que je ne veux pas. Pourtant, je ne veux pas le faire, mais je le fais quand même. Car je le sais, poursuit-il, ce qui est bon n'habite pas en moi. Et en effet, il n'y a rien de bon dans la chair. Il n'y a rien de bon dans ce que la Bible appelle la chair. Comment faire dès lors pour vaincre la chair et pour porter du fruit? Eh bien, l'apôtre Paul donne la solution, si je puis dire, en Galates au chapitre 5 et au verset 16 que nous avons lu. Marcher selon l'esprit ou marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, pour vivre spirituellement, il faut qu'agisse en nous une puissance surnaturelle, celle du Saint-Esprit. Une puissance, une force surnaturel, supérieur, qui est l'œuvre du Saint-Esprit lui-même. Si j'ai ainsi, par exemple, un tempérament explosif, et c'est mon cas, si j'ai, par exemple, un tempérament qui est impulsif, eh bien, j'ai beau essayer par mes propres forces, par ma propre volonté de maintenir le couvercle de la marmite, finalement, au bout d'un certain temps, la pression va finir par sortir. Pour canaliser ces travers charnels, eh bien, j'ai besoin, comme je le disais il y a un instant, de cette force extérieure, d'une puissance spirituelle supérieure produite par le Saint-Esprit lui-même, Alors, il m'est impossible, bien sûr, pour moi, de produire le fruit de l'Esprit, parce que c'est le fruit de l'Esprit, ce n'est pas mon fruit. Mais je peux cependant laisser agir le Saint-Esprit afin qu'il produise à travers ma vie, afin qu'il manifeste à travers moi son propre fruit, ici en l'occurrence la maîtrise de soi. Je suis incapable de produire un fruit, mais le Saint-Esprit, lui, peut le produire à travers moi. Pour illustrer cela, l'apôtre Paul le souligne, il dit dans Galates au chapitre 2, verset 20, je pense que c'est la référence, ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc pour réaliser le fruit de l'Esprit à travers de ma vie, pour que le Saint-Esprit produise à travers moi son fruit, il ne faut plus que je vive en moi, mais Christ doit y régner en maître par son Esprit Saint. Si j'envisage par exemple de soigner une carie qui est juste ici devant, et que je dispose de tous les instruments nécessaires pour effectuer cette intervention. Alors je vais prendre une piqûre pour endormir la zone, mais je risque de blesser ma gencive, je risque de provoquer une infection, je risque peut-être de faire pique mieux. Et c'est normal, parce que je ne suis pas qualifié pour faire ce genre d'intervention. Ce n'est pas dans mes cordes, ce n'est pas dans mes attitudes, dans mes aptitudes de pouvoir opérer ce genre d'intervention. Alors, par contre, si je laisse faire un spécialiste, un dentiste, alors je vais pouvoir me reposer pleinement sur son intervention et il va faire quelque chose de beau. Il va intervenir parce que lui a les aptitudes pour le faire, lui a les qualifications pour opérer. C'est la même chose pour la marche par l'esprit. Moi, par moi-même, je suis trop court pour marcher selon l'Esprit de Dieu. Mais si je laisse agir l'Esprit de Dieu, si je me repose sur son action, si je m'appuie sur son action, eh bien alors le Saint-Esprit va pouvoir, d'une part, anéantir, réduire, détruire les œuvres de la chair et produire lui-même le fruit de l'Esprit, puisque effectivement c'est son fruit. Mais connaissant ces choses, pourquoi nous est-il si difficile à expérimenter cette réalité dans nos vies? Mais pourquoi est-ce qu'il est si difficile de vivre cette réalité dans nos vies? Elle est là, le Saint-Esprit est une réalité, et pourtant, on a difficile d'expérimenter ça dans nos vies. J'ai difficile d'expérimenter la marche par l'Esprit dans ma vie, sur le plan personnel. Pourquoi? Parce que ça reste souvent au niveau de la théorie. Oui, le Saint-Esprit, il est agissant, il est capable de produire en nous des fruits, il est capable en nous de réduire à néant les œuvres de la chair, mais ça reste une théorie. Et pourtant, le Saint-Esprit, lui, n'est pas une théorie. Il est un être réel qui veut transformer nos vies. Alors on ne sait pas trop comment s'y prendre, comment vivre la vie de l'esprit, comment marcher par l'esprit, comment y parvenir, comment il faut faire, comment marcher par l'esprit ou comment laisser agir le Saint-Esprit en moi, comment me soumettre à son contrôle, comment me soumettre à son influence, comment ne plus être contrôlé par les pulsions charnelles qui caractérisent l'être humain, comment marcher dans la victoire, finalement. Comment marcher dans la victoire. Et c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Dieu veut pour chacune de nos vies que nous puissions renoncer aux œuvres de la chair et marcher dans sa victoire, marcher par son esprit, marcher selon l'esprit. Alors, pour marcher dans le monde selon la vision de l'esprit, il y a tout d'abord une condition sine qua non, une condition indispensable. Et c'est celle d'appartenir à Dieu. Parce que si on n'appartient pas à Dieu, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Romains au chapitre 7, nous dit que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc la première condition pour pouvoir vivre de l'Esprit, c'est de l'avoir en nous. Si on n'a pas l'Esprit Saint, si on n'est pas régénéré, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne possédons pas l'Esprit Saint. Et donc, nous n'appartenons pas à Dieu. Et donc, on ne sait pas vivre la vie de l'Esprit. Ça, c'est la condition de départ, la condition indispensable. Et puis, ensuite, il y a deux démarches aussi qui sont importantes pour pouvoir expérimenter la vie par l'Esprit. Deux démarches qui sont tout aussi importantes pour pouvoir vivre par l'Esprit. La première, eh bien, c'est la prière. C'est des choses que nous connaissons, qui reviennent régulièrement. Et la deuxième, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. La prière envisagée ici, ce n'est pas une longue liste de sujets de prière que nous présenterons à Dieu en fonction de nos besoins. Non, la prière envisagée ici, elle est plutôt une prière inspirée par la parole de Dieu et qui nous conduit à la puissance, à l'expérimentation de la puissance de la louange. Parce que la louange en elle-même, la prière de louange, est une puissance qui peut nous délivrer du péché. C'est le psalmiste qui nous dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes péchés. » Donc, la prière envisagée ici est plutôt une prière qui comporte une dimension de louange, qui implique la louange. La prière de louange peut effectivement nous donner la victoire sur la chair. Louer Dieu pour ce qu'il est. Louer Dieu pour ce qu'il a réalisé dans ma vie. Louer Dieu pour ce qu'il fait encore aujourd'hui dans ma vie. Et louer Dieu pour ce qu'il fera plus tard. Ça nous fait rentrer toujours davantage dans cette dimension de spiritualité. Le deuxième élément qui peut nourrir ma vie spirituelle, qui peut nourrir ma marche par l'esprit, eh bien, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. C'est par elle, d'ailleurs, Eric nous l'a rappelé tout à l'heure quand il a fait référence à la lecture de ces deux Pierre ou un Pierre, où désirer comme des nouveau-nés, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole de Dieu qui va vous faire grandir, qui va vous aider à croître. Donc la parole de Dieu est là pour imprimer les pensées de Dieu dans nos cœurs. C'est important. Pour imprimer les pensées de Dieu dans nos cœurs. Et grâce à cette parole, eh bien, nous sommes transformés. Grâce à cette parole, nous sommes sanctifiés. Grâce à cette parole, nous sommes consacrés. Jean 17, 17 nous dit, par ailleurs, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc c'est donc à travers la prière de louange et la parole de Dieu que nous pouvons expérimenter la réalité de la vie de l'Esprit dans nos vies. Deux éléments ô combien importants. La puissance de la louange, la dimension de la louange, qui nous fait pénétrer dans la présence même de Dieu, dans la sphère spirituelle, et la méditation, la lecture et la méditation de la parole de Dieu, par laquelle Dieu imprime dans nos cœurs ses pensées, et par laquelle Dieu nous transforme, Dieu nous sanctifie. En d'autres termes, la communion intime et intense avec Dieu nous fait davantage demeurer dans la dimension spirituelle céleste. Et c'est dans cette communion profonde que notre être intérieur, le nouvel homme, se fortifie, grandit, et qu'il y a transfert de la vie de Dieu en nous. À travers cette communion que nous pouvons expérimenter, intime et profonde avec Dieu, il y a transfert de la vie de Dieu en nous. Et c'est cette vie de Dieu qui est transférée en nous qui nous aide à marcher par l'Esprit, à marcher selon l'Esprit. Est-ce que nous comprenons l'importance de ces deux éléments ? Prière d'adoration, de louange, lecture et méditation de la parole de Dieu peuvent produire, générer en nous, par l'Esprit, une marche conduite et dirigée par l'Esprit Saint. Il y a donc transfert de la vie de Dieu en nous qui remplit notre être et nous régénère toujours plus. Et c'est alors que nous pouvons finalement, comme je le disais il y a un instant, marcher par l'Esprit. Finalement, c'est un principe que Jésus illustre très bien à travers la parabole du cep et des sarments. Hein. Quand en Jean 15, versets 4 et 5, Jésus dit « Demeurez en moi ». Comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi, eh bien vous ne pouvez pas porter de fruit. La vie des sarments procède du cep. Sans la vie de l'Esprit en nous, on ne peut rien faire. Parce que la chair ne peut rien produire de bon. Sans la vie de l'Esprit en nous, on ne peut pas glorifier Dieu dans nos vies. L'apôtre aussi utilise le mode de l'impératif quand il s'adresse aux Galates en disant « marchez par l'Esprit, marchez selon l'Esprit ». Et donc, il nous faut notre responsabilité, la responsabilité qui nous incombe, c'est de répondre à cet impératif. C'est de rechercher ces moments précieux de communion pour finalement faire le plein d'esprit, si vous me passez l'expression. Ben, c'est finalement faire le plein d'esprit, la plénitude de l'esprit. Pour pouvoir expérimenter cette plénitude de l'esprit, eh bien, je dois absolument rechercher ces moments précieux, intimes, de communion avec Dieu. C'est indispensable, c'est prépondérant. Si je veux vivre par l'esprit, si je veux marcher selon l'esprit, je dois vivre d'une façon intime et intense et régulière une communion profonde avec Dieu. C'est la responsabilité qui nous incombe. Vivez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Dans ce monde où souvent notre emploi du temps est surchargé, nous ne devons donc pas oublier cette priorité qui demeure, à savoir celle de cultiver et d'entretenir notre relation, notre intimité avec Dieu, en faisant preuve d'effort, d'organisation, de discipline et d'esprit de sacrifice. Ce sont des éléments dont il faut tenir compte pour pouvoir privilégier notre relation avec Dieu. Alors pour terminer, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vivent, qui marchent pour sa gloire. Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent par l'Esprit. C'était le cas d'Enoch. Il a marché pendant 300 ans avec Dieu. Et c'était le cas aussi donc du prophète Ésaïe, verset que je citais tout à l'heure, qui répond dans le cadre de sa vocation, voilà la référence ici en Ésaïe, chapitre 6, verset 8. Il répond à Dieu qui lui demande « Qui vais-je envoyer ? Et qui va marcher pour nous ?» Alors j'ai répondu, dit-il, « Me voici, envoie-moi. » Alors est-ce que moi aussi, pour moi, mon profond désir est-il celui de marcher pour la gloire de Dieu ? Est-ce que mon désir le plus profond, le plus intense, est-il de marcher aussi pour la gloire de Dieu ?